Annick Delefosse au micro de Radio FM+. En soutien à la culture, l'un des secteurs les plus impactés par cette crise qui traverse le monde, à tous nos artistes, techniciens, techniciennes, intermittents du spectacle, et en hommage au printemps des comédiens, je vous invite à travers la magie de la radio à revivre les éditions de 2014 à 2019 de ce festival de théâtre unique en son genre. Vous y entendrez de nombreuses interviews d'artistes, des extraits de spectacles et nous replongerons ainsi dans ces merveilleux moments que nous avons vécus en attendant avec impatience l'édition 2021.
Comme chaque année pour le printemps des comédiens, nos techniciens Stéphane et Rami et moi-même, nous nous installons au Domaine d'eau, au point presse, plus particulièrement. Vous pouvez venir nous rejoindre et assister à l'émission. Alors aujourd'hui, j'accueille Martin Gerbier, directeur du Centre des Arts du Cirque Balthazar. Il nous dira tout sur Sans Issue, le spectacle des élèves en formation professionnelle. Bonjour Martin.
Bonjour Annick.
En seconde partie, j'accueillerai Gildas Milin, directeur de l'ENSAD, qui nous présentera 4x11, soit le travail des élèves de 3e et dernière année, ce sont 4 spectacles à découvrir, et donc c'est au Théâtre du Hangar. En troisième partie, Dag Jeanneret nous parlera de sa création Poison, un texte de Lotte Wekemans, le tout à voir ces prochains jours.
Je sais que d'entre vous, beaucoup sont des habitués, d'autres des nouveaux, et j'espère qu'ils passeront un bon moment. Je remercie, j'en profite, parce que c'est pas tout le temps que j'ai avec moi le directeur du festival, donc je le remercie, il y a incognito, il est barbe, une chemise blanche, il est là et je viens une fois de plus à le remercier de nous accueillir sur le festival parce que pour nous c'est un moment très important. Parce que c'est soutenir un centre de formation et c'est avoir une démarche particulière et une ouverture à la pédagogie artistique et tout le monde ne le fait pas. Je n'en dis pas plus, je vous demande simplement, vous le savez, vous avez tous vos téléphones portables, de les éteindre, de ne pas prendre de photos avec flash, ou comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez prendre une photo avec flash, faites-le maintenant.
Gerbier. Alors, comme chaque année, nous nous retrouvons à l'occasion de nos émissions spéciales Printemps des comédiens pour la présentation du spectacle de vos stagiaires première et seconde année en formation professionnelle dans votre centre des arts du cirque Balthazar. Alors, j'ai vu la première mercredi et franchement, c'est un excellent cru. Bravo.
Merci une fois de plus de nous inviter pour qu'on puisse parler de notre spectacle. Et bah oui, c'est complètement différent. Tant mieux d'ailleurs, c'est le principe aussi de notre démarche pédagogique, c'est-à-dire d'amener des propositions qui varient aussi en fonction des groupes, qui varient également, mais aussi en fonction, je dirais, des objectifs qu'on peut donner en fin de programme avec nos étudiants. Et ils sont partis sur le thème de sans issue, de justement comment essayer de trouver des solutions sur des moments où on se retrouve dans une impasse, un moment où on est enfermé, un moment où on est bloqué, comment on va essayer de faire émerger autre chose, comment on va trouver des solutions, seules ou collectives. Et c'est plutôt une thématique intéressante de nos jours.
Oui, 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 tout à fait, on est bien d'accord.
Sortir de l'impasse, ça serait pas mal.
Voilà, bon, on a tous plus ou moins compris quand même de quoi vous vouliez parler. Bref, 10 élèves en première année, 8 en seconde. Ils sont tous plus beaux et talentueux les uns que les autres. C'est vraiment un plaisir de les regarder. Alors, comme l'ENSAD, voilà, qui met ses élèves en situation professionnelle, vous présentez leurs recherches sous forme de numéros, donc en solo, en duo ou en collectif. Le tout, bien sûr, accompagné par l'équipe artistique, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez peut-être nous la présenter.
Bah, écoutez, c'est ça. Je vais parler surtout de Martine Leroy, donc, qui a fondé Balthazar, qui a créé Archaos avec Pierrot Bidon, qui a accompagné beaucoup d'artistes professionnels dans leurs numéros, pour les préparer, je dirais, aux différentes compagnies. C'était un moment, ça se faisait un peu comme ça. Puis après, au fil du temps, maintenant depuis plus de... Ça fait 18 ans qu'elle suit la formation professionnelle et ça fait sa 10e création au Printemps des comédiens. Donc, elle connaît bien maintenant, je dirais, les ficelles, comment accompagner un groupe de jeunes, un groupe quand même de 18. C'est pas évident du tout pour faire émerger, je dirais, les singularités et les demandes de chacun en fonction d'une thématique qui soit assez solide et assez mûre pour être présentée quand même dans un gros festival qui est celui du Printemps des comédiens.
Oui, oui.
Et ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est au Printemps des comédiens et 10 ans là qu'on a vraiment une super confiance avec le festival et des retours du public qui sont...
Ah,
toujours
oui.
Très
oui,
favorable.
Oui, 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 le public est fidèle, ça c'est sûr. Hein. Oui. Alors vous, Martin, c'est combien d'années que vous êtes au centre, vous êtes directeur général?
Ça fait 16 ans que je suis à Balthazar. Vous voyez, ça commence à durer.
On ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. Alors bon, comment fait-on pour intégrer le centre des arts du cirque? Est-ce qu'il y a des critères de sélection?
Oui, Balthazar est un des 5 centres en formation professionnelle aux arts du cirque contemporain en France. Et nous avons la particularité, depuis 2 ans, c'est d'avoir une certification professionnelle RNCP de niveau Bac plus 2. Ce qui fait qu'en fait, on a à la fois une section un peu préparatoire pour mener aux grandes écoles, qui sont quand même l'Académie Fratellini et Châlons-Champagne en France, mais on en voit aussi à Bruxelles, à l'ESAC, on en voit aussi en Suède, on en voit à Montréal, on en voit un peu... Enfin, voilà, on est un réseau européen et mondial des écoles, je dirais, des écoles professionnelles en arts du cirque et supérieures. Donc, ça, c'est une de nos envies, une de nos missions. Puis aussi, ça permet aux élèves d'aller dans des structures qui ont plus de moyens, qui peuvent être accompagnés encore plus longtemps. Et sinon, on professionnalise des gens qui vont sortir dans le métier que vous avez vu hier. Je pense à la personne à la roussire, je pense à la personne au cerceau aérien. Qui ont maintenant assez d'acquisition et de maturité artistique pour pouvoir se lancer dans le métier et travailler, je pense, sans souci.
Alors, ça demande combien d'années de formation pour en arriver à ce stade?
Écoutez, on fait, nous, au minimum, c'est 2 ans. Et il y a une 3e année d'insertion. Donc, en effet, comme vous dites par rapport à la question d'avant, c'est difficile pour rentrer. C'est-à-dire que sur environ 130 dossiers, on va garder chaque année 10 personnes.
Ah oui.
Mais voilà, donc on a un réseau ça s'appelle le réseau ProCirque, de 3 écoles qui donnent cette certification. Il y a Piste d'Azur, ça c'est du côté de Mont-Sartrou, vers Cannes, et il y a Arc-en-Cirque à Chambéry, et ils sont à peu près comme moi, autour de 10 par an. Quoi. Donc c'est sûr que c'est une sélection assez difficile, mais c'est vrai qu'on demande un niveau aussi d'excellence, ouvert à tous, puisque c'est une formation qui est financée par la région Languedoc-Roussillon et le ministère de la Culture, et qui fait que certains sont aussi rémunérés, pas tous, surtout les 2e années. Donc, pour ceux qui ont des possibilités, ils n'auront pas vraiment un problème financier pour pouvoir venir faire la formation. Ce qu'il faut, c'est être prêt.
Oui. Alors, bon, j'imagine beaucoup, beaucoup de pratiques, mais il y a aussi des cours théoriques.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on apprend, théorique?
Théorique. Il y a toute la question de l'histoire du cirque, aussi la question des esthétiques, de comprendre aussi c'est quoi le cirque contemporain aujourd'hui. Il y a aussi la question d'analyse de spectacle. d'esprit critique. Il y a aussi de la culture générale et autres, des cours aussi de régie pour leur faire comprendre un peu le système, l'organisation. Ils ont aussi, dans le cas du RNCP, besoin de comprendre aussi comment on construit une compagnie, comment on gère une compagnie. Voilà, enfin, c'est tout un processus. Donc, si on veut les accompagner professionnellement, eh ben, il faut leur donner un peu le maximum d'outils. Ce n'est pas simple en 2 ans. Heureusement qu'on a aussi cette 3e année qui est possible pour certains. Mais là, c'est vraiment des cas particuliers pour les mener à bien un peu, je dirais, cette mission qui aurait besoin d'être encore plus soutenue davantage parce qu'on a vraiment une insertion de plus de 90% de nos étudiants. Et je prends que les arts de cirque méritent aujourd'hui un soutien complémentaire.
Oui, bien sûr. Alors, les amateurs aussi peuvent venir prendre des cours ou faire des stages chez vous.
Ah oui, ben ça, c'est essentiel. C'est notre côté, je dirais, essentiellement de projet d'éducation populaire et d'éducation artistique. Donc, c'est vrai que Balthazar est très attaché à travailler avec tous les publics. Alors, la pratique amateur, bien sûr, ils peuvent venir au garage ou au chapiteau pratiquer les arts du cirque de 3 ans jusqu'aux adolescents et des cours adultes aussi. Mais c'est vrai qu'on va travailler dans des quartiers aussi populaires. On travaille sur les Hauts-de-Massane à Montpellier, un quartier aussi où il y a peu d'actions artistiques, avec la population gitane de Figueroles. On y est depuis 17 ans quand même, on travaille là-bas. Et puis, à côté de ça, moi, je travaille en prison avec les toxicomanes, on travaille dans des cliniques psychiatriques, on travaille avec des structures, des ITEP et autres. Et on est formé à ça. Donc, c'est aussi très important qu'on ait des intervenants qui soient compétents pour travailler dans ces champs-là.
Alors, venons-en au spectacle. Sans issue, écrit sans, le chiffre 100, issue avec un ZI2SU. Ça vous a pris beaucoup de temps pour trouver ce titre. Vous avez fait des briefings.
C'est des temps de travail. C'est à partir évidemment quand on réfléchit. Ils ont réfléchi collectivement sur travailler cette thématique. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution quand on se sent vraiment enfermé, comme je disais tout à l'heure dans l'impasse, bloqué. Il y a 1000 façons de trouver des solutions. Donc, quand sans issue, c'est aussi pour parler, on va créer des surprises. C'est que chaque action de sortie de son échappatoire est singulière et propre à chaque personne. Et elle diffère. Elle diffère en fonction des possibilités, en fonction de ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est que sans issue, c'est aussi pour montrer en même temps la force du collectif. Comment le collectif va soutenir une proposition. Souvent, quand Martine travaille sur les propositions de chacun, ça peut être un duo, un solo ou autre, il y a souvent une présence des autres aussi, à côté, qui sont là pour soutenir, pour accompagner, pour être présent. Voilà. Et ça, c'est une des marques, je dirais, de Martine dans son travail avec les jeunes, qui fait que ça porte le groupe, ça porte les personnes, et du coup, ça permet aux jeunes artistes d'être plus sûr dans ce qu'il est en train de donner à voir au public.
Oui. Alors, concernant donc les solos, les duos, comment décidez-vous que tel élève, par exemple, va faire un solo ou que 2 autres élèves vont présenter quelque chose en duo? C'est par affinité ou en solo, c'est par qualité?
Oui, bien sûr, tout à fait. Déjà, il est clair que ceux qui sont en première année n'ont pas les mêmes possibilités, ils n'ont pas encore la même maturité, ils n'ont pas encore trouvé cette pertinence ou trouvé cette capacité à tenir tout seul face au public. Ce qu'ont acquis, je dirais, maintenant les deuxièmes années. Donc c'est vrai que les solos sont davantage soutenus par les deuxièmes années. Et après, ça dépend sur les disciplines qu'on met en place. C'est-à-dire que quand on a un duo de main à main, c'est un duo de main à main, c'est un duo de portée. Par contre, en aérien, on a souvent une question de... En effet, c'est plus personnel, c'est plus solitaire. Mais bon, voilà, c'est lié, je dirais, aux compétences, c'est lié à la maturité, et c'est lié aussi à la force de la proposition. Et forcément, les deuxièmes années sont plus armées que les premières années pour le faire.
Et oui. Alors bon, on y trouve de la jonque, du cerceau, il y a une roue, il y a de la corde, un mât, un trapèze, un monocycle, des sangles... Enfin voilà, tout à peu près tout.
Tu as raison de signaler que on a une diversité des techniques de cirque proposées, des familles de cirque. On travaille sur la verticalité, sur la suspension. On travaille aussi sur la dimension acrobatique. Et c'est vrai que c'est la force du spectacle sans issue, du spectacle de Balthazar. C'est comme c'est un centre de formation. Nous, on va former des gens à plusieurs disciplines. et ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on puisse les accompagner aussi en fonction de là où ils ont leur sensibilité, où ils ont envie d'exprimer leur sensibilité, leurs émotions, mais aussi où ils ont justement des compétences particulières. Donc cette diversité de techniques donne une grande dimension, une grande variable qui est vraiment appréciée par le public, parce qu'il ne voit pas qu'un seul domaine, que la jongle ou autre. Il voit vraiment une grande diversité.
Alors, quelques mots sur la scénographie, que je trouve très inventive. Elle est très bien vue et peu coûteuse. Restriction oblige, Martin.
Je confirme que si je disais nos budgets de création, tout ce qui concerne évidemment décor, ça ferait sauter plus d'un plafond. Tellement, on trouve des solutions. Faire une création aujourd'hui avec une école, c'est très compliqué. C'est pas forcément pris en charge, soutenu. Donc c'est à nous de trouver des solutions, trouver des moyens. Et souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de récup, d'ingéniosité pour trouver des solutions qui ne fassent pas non plus... quelque chose qui n'a rien à voir avec la proposition artistique. Il faut que ça reste exigeant. Donc voilà, donc on réfléchit pas mal collectivement, on essaie de trouver vraiment des moyens et puis on arrive à trouver des solutions. C'est ça aussi l'intelligence du collectif.
Oui, bravo. Alors j'invite bien sûr les auditeurs à venir voir ce sans-issue. Donc c'est encore à voir ce soir ainsi que demain à 20h30 sous votre joli chapiteau à la gauche de l'entrée du domaine d'eau. Alors là, on entend la musique, enfin c'est le final, très 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 festif. Le public est convaincu, emballé. Il fait très chaud, passez à prendre vos éventails. J'aimerais que vous nous disiez quelques dates là où on peut vous retrouver, notamment, je pense que c'est vers le Pic Saint-Loup ce mois-ci, c'est bien ça Martin ?
Tout à fait, fin juin, on va jouer à Saint-Mathieu-de-Tréviers, on est soutenu par la Comcom du Grand Pic Saint-Loup. On a fait déjà un projet l'année dernière à Saint-Brézéry, là on va le faire à Saint-Mathieu-de-Tréviers. C'est trois spectacles. On retrouvera évidemment Sans Issue, qui va pouvoir présenter justement sa version le 24 juin. Ensuite, on aura deux autres spectacles professionnels faits par des anciens élèves de chez nous, notamment Chute, qui va jouer aussi au Printemps des Comédiens. Et j'ai deux filles super qui viennent présenter aussi quelque chose de très original. Si j'en dis pas plus, c'est une belle surprise et c'est sous le chapiteau Balthazar.
Voilà, et alors très très rapidement, parce que là il nous reste à peine quelques secondes, vous organisez des stages en juillet. On peut peut-être avoir toutes les informations sur votre site.
Oui, tout à fait, sur le site de Balthazar. Donc c'est info@balthazar.asso.fr.
Martin, voilà. Un grand, grand merci.
Alors, merci à vous pour cette invitation.
À l'année prochaine.
Bien sûr.
Chaleur. C'était Sans Issue des élèves de première et seconde année.
Ténorama, c'est sur le réseau FM+, et c'est en direct du Printemps des Comédiens. Et oui. Alors, mon deuxième invité est arrivé, Gildas Milin, directeur de l'ENSAD. Il va nous présenter 4x11 le travail des élèves de 3e année, le tout sous forme de 4 spectacles à découvrir jusqu'au 25 juin au Théâtre du Hangar. Bonjour Gildas.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec un petit extrait. Donc moi j'étais là pour la première. On va écouter un extrait et puis vous nous parlerez un peu plus de ce travail.
Avec plaisir.
Oui, je suis mauvais acteur, mais j'aurais fait un bon cabaretiste. Fantaisiste. Un vrai talent d'improvisateur. Un type qui a quelque chose de plus dans la tête et un cheveu sur la langue.
Arrête. Laisse tomber. À force de t'en convaincre, tu finiras par être mauvais.
Parce que tu me considères comme un grand acteur.
Qu'est-ce que tu veux? Être la 9e merveille du monde, tu as ta spécificité à toi, c'est bien plus important. Sois content de ce que tu sais faire, et que personne ne fait aussi bien que toi.
Mets la bouteille là-bas, qu'elle y soit seule, droite comme un i, loin, perdue dans les glaces, la bête, le cobra de verre.
Elle est presque vide.
Évidemment que j'ai raison contre ces fanatiques de la sobriété. Ces faiseurs froids. Le succès a fait de tous ces gens-là des zombies. Où qu'ils aillent, où qu'ils soient, ils se répètent. Une apparence, une chimère, des têtes saturées. De jour en jour plus saturées. Pas un seul pour oser la sortie, le grand inconnu. Va au cinéma. Regarde, c'est une méthode qui engendre des fantômes. Rien que des robots réalistes. Rien d'autre sur l'écran que les saccades nerveuses du réalisme viril. Neuro-réalisme new-yorkais. Le meilleur savoir-faire dans la représentation de l'homme. Aucun art, aucune puissance symbolique, aucun style. De la technique et encore de la technique. Du quotidien et encore du quotidien. C'est névrosé et déchiquette, l'idée de l'acteur. Faiseur froid, nervosité universelle, sans vie, effrayant, technologique. Or, il faut opposer à cela toute autre chose sur le théâtre.
Mais nous sommes tous plus ou moins des réalistes. Que nous le voulions ou non, vous ne tuerez jamais le réalisme. Et au fond, si on l'utilise avec tact et intelligence, il reste la seule méthode véritablement humaine dans l'art dramatique.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'un style nouveau, d'une foi dans quelque chose de grand, d'une montée en puissance de la force d'expression. Ce dont nous avons besoin, c'est à nouveau d'un élan révolutionnaire, d'un grand saut. Il faut ouvrir des routes dans les forêts et non y suspendre des guirlandes. C'est une certitude. Nous devons sortir de cette prison dorée. Nous devons refaire une percée vers l'inconnu. Je ne peux plus supporter d'être sans toi. Est-ce que tu sais ce qui se passe en moi? Est-ce que tu en as la moindre idée? Je ne peux pas, c'est trop difficile, je n'arrive pas à ouvrir la porte.
Chaque fois que tu m'adresses la parole, c'est pour parler de toi. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Pourquoi ne suis-je pas un autre? Voilà les questions que tu me poses.
Tu ne m'as pas apporté le bonheur. Toi aussi, tu fais partie des riches. Tu n'as besoin de rien faire, tu vis des vignobles et des blanchisseries de ta famille. Et moi aussi. On ne peut pas savoir faire quand on n'y est pas obligé.
Et oui, alors voilà un extrait. Gildas, j'ai un trou sur le titre, pourtant il est récurrent, il revient récurrent dans le spectacle.
4 fois 11.
Oui, non, mais là, pour
Alain Françon. Ça s'appelle Personne d'autre, c'est voilà. Un montage des textes de Botho Strauss.
Voilà, voilà. Alors, bon, comment est née cette idée de faire comme ça ces 4 spectacles pour ce travail d'élèves qui vont rentrer vraiment là, ça y est, ils rentrent dans la vie professionnelle,
ouais,
parce que c'est quand même énorme comme travail.
En fait, c'est assez simple au départ. C'est-à-dire, il y a toujours un grand problème d'articulation entre la vie dans l'école, la sortie de l'école et la vie professionnelle. Et en général, les écoles nationales présentent un spectacle de sortie dans lequel il y a forcément des dissymétries totalement inégalitaires, puisque des gens vont jouer des rôles importants, d'autres des rôles moins importants. Et donc, c'est très compliqué en termes de visibilité. Ça veut dire qu'on voit plus certains élèves sortants et moins d'autres. Et donc, il y a quelque chose là qui n'œuvre pas comme une justesse ou une justice. Et en plus, il y a autre chose, c'est que dans la dernière année, parfois, ils vont rencontrer un intervenant avec lequel ils vont faire un travail formidable, et finalement, le public ne le verra pas non plus. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à créer une dissymétrie, certes, mais qui soit égalitaire, qui permette à chaque acteur d'être visible dans une visibilité accrue, et bien à ce moment-là, faisons 4 spectacles avec 4 esthétiques, 4 systèmes d'adresse très différents, et on va voir donc ces 11 acteurs traverser ces 4 esthétiques. Non seulement on redevient égalitaire, mais d'une certaine manière, on donne la possibilité à chacun des travaux de l'année, en fait, de s'exprimer, d'être vu, et peut-être aussi, je dirais, de façon non anxiogène ou anti-anxiogène, c'est tellement de travail, c'est un tel exploit, c'est une telle odyssée, cette traversée par 11 élèves de 4 spectacles, qui n'ont pas le temps de réfléchir à la sortie. C'est-à-dire que l'anxiété qui apparaît normalement à la sortie, puisqu'il s'agit d'aller dans le monde professionnel, finalement, cette anxiété, elle est atténuée par le fait que d'un seul coup, il y a tellement de travail que c'est plus une odyssée ou une sorte d'exploit. Il y a aussi autre chose qu'on fait à l'école et qui est, je dirais, une chose tout à fait inédite par rapport aux écoles nationales, c'est qu'on délivre les diplômes aux élèves plus tôt, ce qui nous permet, nous, de les prendre en charge et de payer les salaires. Donc c'est aussi un travail de professionnalisation. Donc ça veut dire que là, ils vont jouer sur toute la durée du Printemps des comédiens. Ensuite, ils vont être dans la programmation d'Aubervilliers, le CDN d'Aubervilliers à Paris. Et ça veut dire que d'un seul coup, dès la sortie, ils sont professionnels. C'est-à-dire que ça se fait tout de suite et ils vont cumuler entre 300 et 400 heures à peine après être sortis de l'école.
Voilà, donc c'est un gros, gros travail aussi de professionnalisation et de survisibilité, en fait, des interprètes.
Ah oui, et ça, c'est vraiment spécifique à Montpellier.
Absolument, c'est totalement inédit. En général, les écoles présentent non seulement un seul spectacle de sortie, mais même s'il fait un festival ou un festival des écoles, ils vont jouer 2-3 fois et sans être payés. Donc là, ils vont jouer en tout une trentaine de dates, ce qui est quand même énorme, et ils sont payés sur toute la période.
Ah, bah donc ils ont de la chance, ces jeunes.
Absolument.
Mais alors, c'est spécifique, ça correspond à votre date d'arrivée. C'est vous qui avez mis ça en place ou ça existait déjà sous Ariel?
Je dirais que l'esprit existait déjà, puisqu'on voit avec le travail de Cyril Test, Nobody, qui est sorti aussi de l'école. Très vite, en fait, il y a eu une professionnalisation. Ça s'est fait sur un seul spectacle et ça s'est fait petit à petit. On voit bien que le Printemps des comédiens avait déjà été très présent. Donc, en fait, je poursuis le travail à la fois de Richard Mitou et d'Ariel Garcia-Valdez. Mais disons qu'on pousse le bouchon évidemment beaucoup plus loin sur cette édition, on va dire.
Oui, bah écoutez, bravo. Alors, puisqu'on parle de vous, j'en profite pour vous présenter un peu plus à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, vous êtes à la fois auteur, acteur, metteur en scène, pédagogue, directeur de cette belle école, Maison Louis Jouvet. Donc, vous êtes arrivé en décembre 2014. Et là, vraiment, oui, vous affirmez, vous affirmez la spécificité de cette école. Hein,
oui,
sa réputation.
Oui, oui. Il y a plusieurs axes, en fait, qui font que l'école est tout à fait inédite. Je dirais le premier, c'est que j'ai vraiment la volonté que les élèves croisent des intervenants qui ont parfois quasiment leur âge. Donc, des gens qui ont un parcours de la reconnaissance qui est vraiment aux prémices, au commencement, et aussi des gens comme Alain Françon, par exemple, ou Robert Cantarella, qui ont déjà un très gros parcours de la reconnaissance, on va dire, et de cette friction, je dirais, générationnelle ou transgénérationnelle. L'idée, c'est que d'un seul coup naissent, émergent comme ça des appels, hein, de la vocation pour eux-mêmes monter des projets, porter des projets, et y compris du côté du cinéma, puisque aussi c'est une chose inédite dans l'école, c'est qu'on invite à la fois des réalisateurs, mais on permet aussi aux élèves de tourner leurs propres films avec des chefs opérateurs, avec de la technique. Donc, ils mettent les mains, on va dire, dans le cambouis du cinéma, avec l'idée que les élèves, en sortant, soient à la fois possiblement des auteurs, si ça les intéresse, possiblement des scénaristes, possiblement des réalisateurs, qui passent à tous les postes, on va dire, de la réalisation, et aussi des acteurs, des metteurs en scène, dont on accompagne les projets, là aussi de façon inédite, puisque je crois qu'on est la seule école à avoir un fonds d'insertion, donc de professionnalisation, qui dure 6 ans. C'est-à-dire le double, en fait. Normalement, par exemple, le Jeune Théâtre National, les élèves sont accompagnés en fait par les écoles 3 ans après leur sortie en termes de salaire, et là on le fait pendant 6 ans. Donc il y a un accompagnement, disons, de fond sur presque 10 ans au fond, puisqu'ils font 3 ans d'école et ensuite ils sont suivis pendant 6 ans.
Oui. Alors on va venir sur 4x11, donc 4 spectacles, 4 esthétiques, 4 temps forts de création, et pour 11 élèves. Est-ce que vous voulez nous présenter les metteurs en scène ainsi que les auteurs et les pièces que nous allons pouvoir découvrir?
Donc Alain Françon, qui monte donc un montage de texte de Boto Strauss, qui est un travail absolument superbe que je vous invite évidemment à voir. Ensuite il y a Robert Cantarella qui a travaillé avec Stéphane Bouquet, qui a écrit une pièce spécialement, donc c'est du Cous humain, hein, c'est vraiment écrit spécialement pour les élèves, et qui va entrer en discussion avec un film de Jacques Rivette qui s'appelle Out One, qui est un film absolument étonnant. Et on a comme ça dans le spectacle 2 périodes où des révoltes se cherchent, on va dire, au début des années 70 et aujourd'hui. Et ces 2 modes de révolte ou de rêverie autour de comment vivre autrement ensemble vont discuter. Et on voit bien que dans les années 70, se révolter semble simple, puisqu'on se révolte en face d'un monde lourd. Et on dit, sous les pavés de la plage, et même s'il y a Deleuze, même s'il y a Debord, même s'il y a de la pensée, finalement, c'est s'alléger en face de 5000 ans d'histoire. Et on voit bien que 40 ans plus tard, c'est le super léger qui a pris le pouvoir. On dit aux gens, voilà, il faut que vous soyez corvéables à merci, que vous fassiez 15 ce métier dans votre vie. Donc là, c'est le super léger qui devient le discours officiel. Et au fond, pour se révolter, il faut redevenir lourd. Presque, il faut devenir expert en économie. Presque, il faut réapprendre le grec ancien, etc. Donc se révolter pour les générations d'aujourd'hui qui sont nées en même temps que la globalisation, en même temps qu'Internet et que la révolution, on va dire, la troisième révolution de l'information, qui est une révolution colossale, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se révolter, entre guillemets, ou d'imaginer vivre ensemble autrement. Et donc le spectacle de Robert parle de cette chose-là, de cette friction. Ensuite, il y a un texte plus classique, donc de Buchner, qui est La mort de Danton, et qui est monté par Jean-Pierre Barrault. Et le dernier, donc, s'appelle NNN, ni frère, ni égaux, ni libre, qui est une pièce comme ça sur la robotique organique, donc qui navigue entre, je dirais, la série Z de science-fiction, le manga, la technologie. Et voilà. Et donc, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est à la fois des esthétiques, mais c'est aussi des générations. Parce que si on regarde les élèves, ils ont en gros 25 ans. Jean-Pierre a en gros 35 plutôt. Moi, en gros 45.
Voilà. Donc, parce que vous l'avez pas précisé, c'est vous qui êtes l'auteur et le metteur en scène pour NNN.
Pour NNN, voilà. Absolument. Ouais. C'est aussi une pièce que j'ai écrite spécialement pour les élèves. Mmh. Et on voit donc ces générations. En fait, on est 5 générations qui discutent ensemble et qui essayent aussi de vivre ensemble et de créer une communauté autour du travail.
Alors, écoutez, pour notre plus grand plaisir, vous nous rouvrez les portes du Théâtre du Hangar, donc, qui est devenu l'outil de travail de ces jeunes. C'est une chance énorme.
Oui, c'est une chance énorme. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'École nationale, prenant la direction de ce théâtre indépendant, donc qui n'est pas adossé ni à un CDN ni à un théâtre national, c'est à la fois une extension de l'école qui est absolument incroyable, mais c'est aussi une chose que j'ouvre aussi aux compagnies. C'est-à-dire qu'il est hors de question que ce soit simplement une extension de l'école. C'est un endroit où les petites classes du CRR pourront travailler, où les classes dites préparatoires aux écoles nationales pourront travailler, où les élèves de l'École nationale pourront travailler, mais aussi des compagnies invitées, aussi bien pour des films que pour des projets de théâtre, que des projets de danse ou même de musique. L'idée, c'est que là aussi, on soit dans un théâtre de création continue où des gens qui ne sont pas encore des professionnels côtoient des professionnels en permanence.
D'accord. Écoutez, un grand, grand merci. Je propose qu'on écoute un second extrait. Voilà, c'est décidément.
C'est, oui, c'est toujours pas, personne d'autre.
Voilà, personne d'autre. J'arrive pas
à. Des extraits de Botto-Strauss.
Voilà, merci.
J'ai besoin d'une cuvette de WC où je puisse voir mes excréments. Il faut que je contrôle mes excréments. Comprends donc ça. Dans cet hôtel, il n'y a pas de cuvette de WC à fond plein. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je ne vois rien de mes excréments.
Arrête de bouffer ces pilules.
Je bouffe ce qu'il faut.
Que tu t'imagines, hein. C'est un problème de fragilité croissante chez toi. C'est un problème d'absence de vie chez toi. Excusez-la.
Que cherches-tu chez les femmes?
Je ne sais pas. De la compréhension, peut-être. Un petit peu de compréhension pour le fait que je ne les aime plus comme avant.
Mais tu peux. Cette nuit, peut-être. Tout de suite, peut-être me faire un enfant.
J'ai bu une goutte dans ton verre, par mes gardes. Prends-en un autre.
Continue à boire dans le mien, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu peux certainement me rendre très heureux.
Vois-tu, je fuis depuis quelque temps comme un robinet rouillé. Mais je dois continuer à faire mes preuves. Continuer à sortir mon dard. On n'a guère plus que la peau et les os. On se retire d'abord les dents de la gueule, on prend sa tension et puis fermez les yeux et foncez.
Mais qui t'y oblige?
Moi je m'y oblige. Je me bats pour mon statut d'homme dans la moyenne. Au fond, je parle de ces fameux vases communicants. Ils montent en moi juste autant de sève que chez tous les autres vieillards. Je ne peux pas me défendre contre ça. Si le monde se calmait, je trouverais enfin aussi le calme. Jusqu'à notre dernier souffle, le masque du sexe nous fait sa grimace. Partout autour de nous, ça halète. Et ça suce et ça bave, personne ne prend dignement congé de sa vie sexuelle. Ils veulent encore se grimper dessus à l'état de squelette et faire cliqueter ça gaiement. Parfois j'ai l'impression que tous autant que nous sommes avons été inventés par Aristophane. Personnage bruyamment excessif, hein. Frimeur, vantard, baratineur et grosse saucisse de Francfort. Ne sommes-nous pas prisonniers d'un drame satirique sans fin, infiniment stupide? Personne ne parvient plus à sortir de la comédie. Interdiction de s'en aller. Personne ne quitte la scène. Il faut en faire trop. En toutes circonstances. Toujours cacher le vieux visage blafard derrière le masque d'un rut écumant. Jusqu'à ce qu'on tourne de l'œil. Jusqu'à ce que les tuyaux éclatent.
Je suis près de toi.
Justement, c'est de ça que je parle.
Thank you.
toujours sur le réseau FM+, et toujours dans votre émission Scénorama en direct du Printemps des Comédiens.
Il y a aussi un temps de merde chez vous ?
Chez nous ?
Je veux dire en Normandie ?
Ah oui, bien sûr. Tu n'as pas changé.
Ouais, faut pas y regarder de trop près.
Je croyais que c'était peut-être à cause de ces matières.
Ces matières ?
Le poison.
Non, ça n'a rien à voir avec le poison.
C'est idiot.
C'est horrible, je trouve.
Et dire qu'il ne découvre ça que maintenant ?
Le 31 décembre 1999, à 7h10.
Tu te souviens encore de l'heure ?
La porte s'est refermée. J'ai regardé l'horloge. 7h10. Je n'y peux rien, je ne l'ai jamais oublié.
J'aurais voulu te téléphoner, mais je me suis dit, pauvre con, mais tu ne fiches pas le camp un jour comme celui-là pour l'appeler ensuite à minuit. Et donc, je n'ai pas téléphoné.
Je sais.
C'est un dingue.
Tu réfléchis à ce que nous allons faire si tout ça est vraiment vrai ? Si on va vraiment devoir déplacer ces 200 tombes ? Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Où va-t-il aller ?
Et à chaque kilomètre parcouru, je me sentais un peu plus détaché de tout. Un peu plus anesthésié. Un peu plus perdu, oui. Je ne savais plus où je courais ni quel temps il faisait. Je mettais seulement un pied devant l'autre. Et j'avançais.
Tu crois que ça fait une différence, toi, de faire ou de ne pas faire quelque chose ? Tu crois qu'on est récompensé ou puni ? Pire encore, ça t'avance à quoi de poser la question ? Est-ce que ça m'a quelque chose ? Ça me fait gerber cette question. Est-ce que ça m'a appris quelque chose ? Rien ! Que la vie est de la merde ! Parfois, pour certaines personnes, une vraie merde ! Et pour des raisons totalement inexplicables !
Jacques Jeanneret, bonjour. Vous présentez Poison, un texte contemporain saisissant de la néerlandaise Lot van Kemax. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Déjà, non.
Écoutez, Annick, avec tout le respect que je vous dois, vous avez moyennement prononcé au sens où elle s'appelle Lot Vekmans.
Ah, Lot Vekmans, merci de m'avoir corrigé, Dag. Alors, de quoi parle cette pièce ?
Alors, Poison, c'est la confrontation, la retrouvaille entre un homme et une femme qui ont vécu ensemble quelques années auparavant. Et l'homme est parti un jour, abruptement, de chez lui, du domicile conjugal, comme disait François Truffaut, et n'a plus jamais donné de nouvelles. Et ce pourquoi il est parti, c'est parce que ils avaient une année auparavant perdu un enfant dans un accident de voiture imbécile, comme ça arrive dans ces cas-là. Et donc ce couple qui avait l'air de vivre amoureusement, convenablement, très bien, avec un enfant plutôt petit, traverse dans un premier temps cette épreuve-là, ce choc terrifiant-là. Et a l'air, même si la pièce on la prend plus tard, de le traverser avec beaucoup de douleur évidemment et d'impossibilité de continuer et d'incommunicabilité de continuer à vivre ensemble. Et un beau jour donc, le mari littéralement fiche le camp, quitte le pays, va habiter en France. Et là on n'est toujours pas à la pièce, c'est dans l'amont de la pièce. La femme qui, elle, a continué à vivre dans le même appartement, dans la même ville, dans la même atmosphère, décide par un stratagème de reconvoquer le mari. Le stratagème, c'est pour ça que la pièce s'appelle Poison, est assez douloureux, assez étrange, c'est-à-dire qu'elle invente l'idée que le tombeau, comme on dit, la tombe, les cendres de l'enfant doivent être déplacées parce qu'il y a dans la nappe phréatique des substances, enfin quelque chose qui fait que une partie du cimetière doit être déplacée. Et elle invente cette chose-là, et c'est ce pourquoi le mari, qui donc n'avait jamais donné de nouvelles depuis 6 ans, réapparaît, accepte cette convocation et revient. Et la pièce raconte comment ces deux êtres-là remis en présence, l'un de l'autre, l'un avec l'autre, tentent de quoi ? C'est toute la question. On tente d'évoquer ce qui les a séparés l'un de l'autre, tente d'évoquer ce qu'ils n'arrivaient pas à se dire juste après la mort de l'enfant, c'est-à-dire de parler de ça, de parler des circonstances, de parler de ce que ça a produit en l'un et en l'autre. Et voilà.
Dag, pourquoi avoir choisi cet auteur et ce texte en particulier ?
C'est une pièce dont j'avais donné une lecture au Printemps des comédiens en 2011, avec 2 autres comédiens qui étaient d'ailleurs très bien. Et l'auteur était venu, l'hôte Vecmans était venu, et j'avais été très, très ému de la lecture, très, très bouleversé. C'est une pièce en apparence simple, même si elle est assez âpre, assez violente dans le rapport entre ces deux êtres. Alors pourquoi on monte les choses, c'est toujours l'éternelle question. Parce que ça vous remue à un moment ou à un autre, ou plutôt même que ça vous remue régulièrement, parce que souvent les metteurs en scène, c'est par souvenir que les choses opèrent. On lit des choses, ça vous plaît, ça vous plaît moins, et on décide pas tout de suite. Et quand certaines pièces restent dans la mémoire, et la mémoire du cœur en l'occurrence, pas seulement la mémoire intellectuelle, eh ben on se dit que peut-être elles résonnent. Et comment parler du deuil et de la disparition, comment tenter de parler de cette chose-là qui est si intime, si difficile à nommer, est sûrement quelque chose qui m'intéresse, moi.
D'accord. Alors, il faut préciser que cet auteur a reçu en 2005 le prix Van der Weis, est-ce que j'ai bien prononcé ?
Oui, je crois.
Voilà, décerné tous les 3 ans au meilleur texte théâtral, et que nos auditeurs pourront découvrir ce texte qui est paru aux éditions 34.
Hein. Espace 34.
Espace 34, oui. Alors, vous avez fait appel à 2 magnifiques comédiens, vous voulez nous les présenter ?
Alors, il y a Sophie Rodriguez, que je connaissais depuis longtemps et qui je n'avais jamais travaillé, qui a été ici à Montpellier, au conservatoire. Ensuite, elle a fait l'École nationale de Strasbourg, du TNS. Et elle a fait une très belle carrière depuis une vingtaine d'années, en travaillant avec beaucoup de metteurs en scène importants, Alain Françon, Jean-Louis Martinelli, Jacques Weber, vraiment, et j'en oublie beaucoup. Et c'est quelqu'un que je connaissais sans la connaître, comme ça, un tout petit peu. Et j'ai repensé à elle, et voilà, c'est quelqu'un qui a une sensibilité extrêmement frémissante, une sorte de frémissement comme ça dans le jeu, d'émotions à fleur de peau en permanence, et en même temps qui peut être légère et drôle, parce qu'elle a aussi une part comique, et je pensais qu'elle était assez idéale, et je le pense toujours d'ailleurs pour ce rôle-là, de cette femme qui est détruite. Il fallait pas quelqu'un qui porte la misère du monde sur les épaules, qui porte la douleur du monde sur les épaules. Il fallait essayer de trouver quelqu'un qui traverse ça, mais dont l'apparence, dont l'être là, soit simple et pas particulièrement douloureuse. Et puis Christophe Raymond, avec qui j'ai déjà travaillé sur Tambour dans la nuit, le Brecht que j'ai monté il y a 2 ans et demi, c'est différent, puisque donc j'avais déjà travaillé avec lui sur un gros spectacle. Là, il fallait quelqu'un de douloureux naturellement, et de calme, et avec une présence un peu animale, un peu instinctive au plateau. Et c'est un des acteurs, parmi d'autres évidemment, qui a, parmi tous ceux que je connais, ici ou à Paris, qui a ces qualités-là, cette qualité de présence instantanée. Voilà, un tout petit peu mal dit, parce que c'est toujours difficile d'en parler, le choix des comédiens.
Dag, j'aimerais savoir quels ont été vos choix de mise en scène donc, pour ce poison.
Ça a été, c'est beaucoup lié à la scénographie, ça a été essayer d'inventer un espace qui se passe donc dans une espèce de salle adjacente au cimetière, ou qui est peut-être une salle, ces fameuses salles terrifiantes où on attend quand les gens sont incinérés, et qui, j'en ai vécu quelques-unes comme tout le monde, elles sont en général, malgré les efforts des croque-morts aussi ignobles les unes que les autres, impersonnelles et sinistres, mais peut-être qu'elles sont sinistres de par la situation simplement. Donc ça c'était la base, c'était comment évoquer un endroit comme ça. Moi, ça fait quand même longtemps que j'essaie de reconstituer des espaces réalistes. Ça peut m'arriver un jour. Donc, mais il fallait quand même essayer d'évoquer ce qu'on pourrait appeler de l'impersonnel de ces lieux-là. Voilà. Après, les choix de mise en scène, moi, je suis, on pourrait dire, presque avant tout un directeur d'acteur plus qu'un metteur en scène, même si ça paraît prétentieux de l'appellation directeur d'acteur, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est surtout sur une pièce comme ça, une pièce de l'intime. C'est comment on travaille au corps à corps et au plus près avec les comédiens. Donc, voilà, c'est très difficile d'expliquer les choix de mise en scène. Ils sont en général très liés aux espaces qu'on a choisis avec le ou la scénographe.
Alors, quelques mots sur la scénographie et la personne qui travaille dessus.
Oui, c'est Cécile Marc avec qui je travaille souvent, qui a conçu l'espace, enfin avec moi bien entendu. Ce sont de grandes verrières qui donne sur rien, sur un mur de lumière par moment, enfin toujours un mur de lumière qui change évidemment, qui passe d'une couleur à une autre, et un espace vide. Disons que ce qui pourrait tout simplement définir cet endroit, mais encore une fois d'expérience, de l'expérience de tous ces gens qu'on a pu connaître, sont des endroits qui vous glacent. Et en même temps, pour ce qui nous concerne, où on a essayé de rajouter, c'est pour ça qu'il y a du bois beaucoup, un plancher en bois, de rajouter un élément un peu plus chaud, pour le dire sommairement, pour essayer de trouver un équilibre entre cet espace impersonnel, froid, clinique, et un plancher en bois avec de la terre qui ressurgit de sous le plancher. Voilà, c'est la tentative de trouver un endroit qui ne soit pas réaliste, mais qui évoque en même temps le lieu où ça se passe. Mais c'est, encore une fois, pas très simple de décrire tout ça.
Dag Jeanneret, merci. Donc, la pièce est à voir ce vendredi ainsi que demain à 18h, puis dimanche à 20h30 au Théâtre d'Eau. Une rencontre avec l'équipe artistique aura lieu à l'issue de la représentation de ce samedi. Merci, au revoir Dag.
Merci.
Un grand merci à l'équipe du printemps de nous accueillir, et merci à Stéphane et Rami qui m'ont accompagné à la technique, et vous aussi bien sûr, chers auditeurs. À bientôt, au revoir.
Les rediffusions Scénorama spécial Printemps des comédiens de 2014 à 2019, c'est sur Radio FM+, tous les vendredis à 11h et à 20h, le samedi à 12h et écoutable en podcast sur notre site radiofmplus.org. Merci à Stéphane à la technique, à Yann pour la mise en ligne, ainsi qu'à Guylaine, notre directrice d'antenne, qui ont œuvré tous les trois à ces diffusions depuis chez eux. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à la semaine prochaine.